Bonjour, ou plutôt bonsoir. Donc, c'est l'émission des économistes atterrés qui s'appelle Atterré et compagnie et Dany Lang à l'antenne pour ce deuxième numéro de notre émission qui, je suis sûr, vous a manqué pendant toutes ces semaines. Et on a le plaisir ce soir d'accueillir un sociologue, figurez-vous. Voilà, on se permet des fantaisies de ce genre dans le cadre de l'émission. Et on reçoit donc M. Benjamin Lemoine, qui est chargé de recherche dans un centre Maurice Albax, c'est ça? Oui, voilà, à l'ENS. Tu nous expliqueras peut-être tout à l'heure qui est ce monsieur. Donc, le sommaire de l'émission, on va commencer par le grand oral de notre invité, parce que nos invités, on les fait travailler, n'est-ce pas? On n'est pas là pour se tourner les pouces. Ensuite, vers 18h30, on rejoindra notre tata flingueuse qui est la nouvelle doyenne fraîchement élue avec un score à faire pâlir d'envie Kim Jong-un à la Grenoble School of Management qui s'appelle Virginie Monvoisin.
Bravo elle.
Qui est une atterrée. On lui demandera si elle a bénéficié de conseils de Kim Jong tout à l'heure. Et puis, elle nous parlera de la politique, tout le bien qu'elle pense de Donald Trump. Et puis, après ça, on finira par une interro-surprise pour notre invité et qui, visiblement, aime beaucoup les oiseaux. Voilà, donc on commence. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Donc, Benjamin Lemoine. On commence toujours cette émission par, c'est la deuxième, donc je ne sais pas si on peut dire ça, mais la nouvelle tradition qu'on a instaurée, c'est d'apprendre à connaître notre invité un peu. Alors comment tu es devenu sociologue? Est-ce que, étant jeune, tu avais des posters de Bourdieu ou de Monsieur Albax dans ta chambre? Est-ce que tu aimais observer des petits chats? Vas-y, raconte.
J'y suis arrivé un petit peu par hasard. En réalité, je commence des études d'histoire et puis je m'oriente. Alors, c'est pas tout à fait la sociologie, mais c'est la science politique. Mais en réalité, la science politique s'est constituée comme une discipline grâce à la sociologie. Et il y a quand même un peu de vrai dans ce que tu disais, c'est-à-dire que je suis arrivé à Nanterre dans une fac extrêmement politisée. Moi, je viens plutôt de la banlieue nord. J'étais dans un lycée assez apathique politiquement et j'ai découvert cette faculté qui était encore très, très vivace, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, qui est, enfin en tout cas quand je l'ai connue, extrêmement...
Pas la faculté d'économie, là-bas c'est fini,
écoute,
mais bon.
Dans les sciences humaines et sociales, en tout cas, c'était très, très
chez
fort.
Chez les islamo-gauchistes.
Voilà, exactement. Voilà. Donc le bonheur d'arriver chez les islamo-gauchistes avec des enseignants qui effectivement me font très, très bon, très bonne équipe ancienne, qui me fait découvrir effectivement Pierre Bourdieu et... C'est un peu cliché, mais en tout cas, c'est une énorme claque, effectivement. Moi, je découvre la politique grâce à Bourdieu, ce qui est un peu paradoxal, puisque on l'a souvent présenté comme quelqu'un de très désenchantant, déprimant, avec une analyse extrêmement critique et sans illusion du monde social. Mais
en effet, voilà. Bourdieu, mais en réalité, moi, c'est pas ce qu'on lit le matin pour avoir la forme au petit déjeuner.
Mais en tout cas, il était dans sa période d'engagement très fort, et en réalité, moi, ça... Ce désenchantement, cette lecture très critique du monde social, elle va m'amener vers un goût du politique. Et
Donc Bourdieu et Mylène Farmer.
Alors. Voilà, exactement, ouais, bon. Tout à fait. Ouais. Et puis, le fait de s'intéresser à des sujets pas très classiques pour les sociologues, là, c'est venu un tout petit peu plus tard.
C'est-à-dire des sujets pas très classiques, comme celui dont on va traiter aujourd'hui.
Absolument, ouais, tu as dit le mot, je crois.
Oui, voilà. Donc,
De s'intéresser à la dette, c'est un peu paradoxal. Ça vient quand même de la science politique, puisque je vais mon mémoire de master, je vais le faire dans une administration, au ministère de l'Intérieur et dans la partie financière. Donc,
c'est intéressant. Quel était le ministre de l'Intérieur à ce moment-là?
On était sous Sarkozy.
Ouais, ah, voilà. Je comprends mieux certaines choses maintenant.
Et il y avait d'ailleurs à un espèce de premier conflit entre le besoin de faire du chiffre, de faire des choses marquantes pour le politique, et puis une contrainte qui commençait à émerger, la contrainte budgétaire. Et il y a une grande réforme à l'époque qui s'appelle la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances. Mais c'était l'idée d'introduire dans l'administration publique les nouveaux indicateurs de management public, de gouverner l'État comme on gouverne une entreprise, et puis de faire un grand audit des finances publiques, décrypté avec des lunettes islamo-gauchistes. C'était, disons, le cheval de Troie de l'austérité, et la manière, par le calcul et par des techniques très refroidies, très dépolitisantes, d'introduire la rationalisation budgétaire, les économies, bref, de passer au coup de rabot la dépense et les services publics.
Oui, ce qui est une obsession des néolibéraux depuis longtemps, et voilà. Ils essayent par différents canaux.
Donc je décrivais
cette
par le menu.
Qui, me semble-t-il, avait été adoptée sous Jospin.
Hein, absolument, ouais, c'est la gauche.
Nous menait...
Ça faisait consensus partisan gauche et droite. Il y avait que les communistes qui s'étaient... opposés à l'époque.
Toujours les mêmes.
Voilà. Mais on était effectivement dans une espèce de cela va de soi, que on l'est toujours, hein, je pense. Enfin, on a passé des crans, je pense. Mais à l'époque, on est dans une espèce de bon enfant, le nouveau management public bon enfant qui fait consensus. Ouais. On s'y oppose très peu. Et avec l'idée que, évidemment, les services publics ne seront qu'améliorés par l'application de cette doctrine. On en est revenu un peu dessus. Il faut quand même rappeler que, alors, ça n'a pas été mis dans les faits, que même Macron avait prétendu revenir sur la tarification à l'hôpital. Et donc, il y avait quand même des grands mouvements.
La tarification à l'acte, qui est un système appliqué à l'hôpital, qui est le nouveau système et qui pose beaucoup de problèmes aux hôpitaux. Puisque,
avec l'idée que...
Il y a un certain nombre de soins qui sont des soins ordinaires et dont tout le monde a besoin, qui ne sont pas rentables.
On se met dans une logique comme si les services publics étaient plus universaux et qu'on on réfléchit à l'américaine et on se met effectivement à fixer des coûts devant chaque acte, chaque opération.
Oui, Nathalie Coutinet, notamment pour les atterrés, et Philippe Abécassis ont écrit là-dessus. Donc, et je
super.
Renvoie à leurs travaux.
Chez les sociologues, il y a Pierre-André Juven qui a fait une très, très bonne thèse là-dessus. Mais donc, tout ça pour dire que moi, quand je commence, on a cette idée qu'il est évident qu'on n'a pas le choix. Et il y a une grande menace qui plane au-dessus de nos administrations. Et c'est notamment la dette publique qui vient justifier ce consensus et ce besoin de réformer le mammouth, de transformer l'État et de le dégraisser.
Cher à Claude Allègre, qui nous a quittés.
On est dans cette ambiance-là, quand je commence mon travail, absolument.
D'accord. Et donc, c'est comme ça que finalement, tu as eu cette idée de venir chasser sur les terres des économistes, mon Dieu, un sociologue qui vient chasser sur les terres des gens sérieux. Alors, comment ça se fait? Est-ce que tu es un adepte du grand remplacement?
Non, pas du tout. Mais j'étais accompagné par des économistes. Je suis tombé dans la marmite d'un grand économiste régulationniste qui s'appelle Bruno Terray, puisque j'ai eu la chance de faire ma thèse en partie. Je l'ai fait à l'École des Mines, mais j'étais un pied à l'Université Dauphine, à l'IRISO, où on avait des grands noms comme Bruno Terray.
Bruno Terray, grand spécialiste des monnaies locales, des monnaies parallèles, etc.
Absolument. Et puis, il avait fait un livre très important où il étudiait le système économique avec des lunettes de politiste et avec l'idée qu'on doit être hybride, en quelque sorte. Et je pense que lui, il est réellement hybride.
Parce qu'on ne peut pas, si on prend les choses au sérieux, on ne peut pas comprendre la monnaie avec un point de vue uniquement économique. La monnaie, c'est le pouvoir. Et les travaux de Terray, d'Orléans ou de Dominique Plion sont assez éclairants là-dessus.
Donc du coup, pas du tout de grand remplacement, mais au contraire, l'envie de faire équipe et de travailler avec des personnalités comme ça, que je connais toujours, avec qui je suis toujours très ami, mais bref, qui ont été absolument importantes. Et dans l'idée d'apporter sa pierre, une pierre un peu complémentaire, qui est peut-être la seule originalité... parce que je ne veux pas d'hégémonie de la sociologie, contrairement à Bourdieu qui pourrait peut-être avoir une tendance à considérer que...
Oui, contrairement aux économistes néoclassiques qui pensent que l'économie va remplacer toutes les autres sciences sociales.
Voilà. Donc, il y avait l'idée que le passage par l'enquête de terrain, c'est quand même quelque chose qui est assez spécifique aux sciences sociales et à la sociologie. Et typiquement, sur la question de la dette, il y avait un petit vide là-dessus. C'est-à-dire que c'est une question qui est omniprésente, mais concrètement, d'aller étudier les instruments de financement de l'État, comment le Trésor est devenu le plus grand défenseur des marchés de capitaux dans le monde et du titre de dette française, comment on va l'exporter, comment la gauche dans les années 80 va construire ce produit de dette et en faire le fleuron de l'économie française.
Ce qui nous amène à tes livres d'ailleurs, parce que tu es là aussi pour vendre tes livres, même non, s'ils sont plus disponibles.
Ouais, ils sont en ligne.
mais pour parler de tes livres qui sont absolument passionnants, parce que en te lisant, j'ai déjà lu des livres de sociologie. Pour tout te dire, moi-même j'ai un CAPES en économie et sociologie, et en te lisant, j'ai pris plus de plaisir qu'en lisant de sociologue moyen, parce que on sent qu'il y a aussi la plume du politiste, de l'historien, etc. Donc, est-ce que tu veux nous parler de ces deux ouvrages, et notamment de cet ouvrage où tu racontes effectivement toute cette histoire, comment on est passé d'un système administré où finalement on avait le fameux circuit du trésor, c'est-à-dire un financement des relances. Par la politique monétaire, notamment avec la relance Chirac-Fourcade en 75 dont tu parles, et comment on est passé, notamment sous la prétendue gauche dans les années 80, à ce basculement vers les marchés financiers. Donc, est-ce que tu veux nous parler déjà, est-ce que tu peux en deux mots présenter cet ouvrage à nos auditeurs?
Oui, donc l'ordre de la dette, effectivement, il porte sur la façon dont la dette française a été mise en marché, et c'est une histoire un peu de la financiarisation à la fois de l'économie française et de l'État français. Alors, pour faire encore un clin d'œil à un économiste, c'est Bruno Terray qui me met la puce à l'oreille et qui m'indique qu'il faut absolument enquêter sur les guichets du Trésor. Voilà, il était obsédé par cela parce que dans les années 2000, on finissait le grand projet néolibéral et on venait fermer les derniers guichets du Trésor. Alors c'est quoi ? C'est simplement le fait que l'État agissait comme n'importe quelle banque. Il était teneur de compte pour des particuliers. Et donc c'était absolument fascinant. Il y avait en cela, c'était quand même porteur d'une forme de critique de l'ordre existant où on était dans le tout bancaire privé déjà à l'époque. Et donc, il y avait cette idée d'aller creuser, mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et en réalité, je découvre... je ne suis pas le premier à le découvrir. Hein. Il y a des bouquins d'historiens, et puis c'était dans les manuels. Voilà, il y a des étudiants en Sciences Po, on leur présentait le circuit du trésor, mais c'était quelque chose d'absolument vieillot, dépassé. Et puis, il y avait une explication qui dominait, c'était la flèche de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a abattu cette chose parce qu'il fallait l'abattre, comme toutes les vieilleries, et qu'il fallait se diriger vers la modernisation de marché.
Donc, et la modernité étant absolument. Le néolibéralisme.
Donc on retrouvait un peu cette lecture téléologique, et donc il y a l'idée d'aller voir concrètement dans les archives à quoi ça ressemblait, et puis on est surpris de découvrir que non, en fait, cet appareil, il a longtemps été... cet instrument a été longuement très légitime aux yeux du pouvoir par des gens qui n'avaient rien d'islamo-gauchiste, je veux dire.
Je conseille François la lecture Bloch-Lenay, de ce livre parce qu'effectivement...
François Bloch-Lenay, il est fils de banquier, il fait Sciences Po, l'ENA, je veux dire, il a le même CV que nos dirigeants d'aujourd'hui. Et pourtant, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a l'idée que pour reconstruire le pays, il n'est pas question de laisser l'économie aux mains du marché, et on est dans une perspective comme un cela va de soi, dirigiste en quelque sorte.
L'âge d'or des Trente Glorieuses.
Exactement. Et donc, on nationalise la Banque de France, on nationalise les deux tiers du secteur public bancaire, les deux tiers du secteur bancaire est rendu public ou parapublic. Et puis, il y a l'idée qu'on peut flécher le crédit à l'économie, c'est-à-dire que l'État, la puissance
publique...
Qui va
publique, avec, d'ailleurs, la planification, absolument. La planification indicative.
Exactement. Et disons que c'est le charbon, le moteur du modèle de croissance des Trente Glorieuses via cet appareil de financement. Mais il y a même des figures comme De Gaulle la formule l'intendance suivra, tout ça se traduit un peu dans les faits, et effectivement la contrainte financière.
Oui, De Gaulle qui ne croyait pas du tout aux vertus du libre marché et du capitalisme.
C'est
même,
ça.
Il le disait.
C'est ça. Alors il va être modifié le De Gaulle. Bon, après, il faut quand même redire que dans l'après-guerre, c'est aussi le Parti communiste qui est très puissant.
Oui,
on a un rapport de force qui a le modèle de l'URSS.
La droite très affaiblie parce que une grande partie de la droite a collaboré,
absolument.
Etc.
Ouais. Et donc bref, il y a cet appareil qui est construit et qui ne sera réformé que 25 ou 30 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a notamment un appareil de financement de l'État où on ne passe pas du tout par les marchés. On va même suspendre la logique de marché. C'est quoi la logique de marché ? Aujourd'hui, c'est l'agence France Trésor, le dernier étage de Bercy, où on a nos traders de la République qui émettent de la dette auprès des marchés, qui la vendent à séance régulière. Eh bien, ces séances de marché, elles sont suspendues et l'État, il se finance à robinet ouvert via une réglementation. Il contraint les banques à alimenter ces caisses en gelant une partie de leurs actifs comme des réserves obligatoires, si on fait un anachronisme très fort, sauf que ces réserves obligatoires, elles sont placées directement en bons du trésor via une réglementation. Et c'est aussi pour l'État un moyen de contrôler l'inflation. Donc cette contrainte financière, elle n'est pas absolument absente, mais elle est dans les mains de la puissance publique. Alors c'est un système très technocratique, mais néanmoins, ça a été le carburant des Trente Glorieuses.
On fait une très brève pause pour écouter le jingle et on reprend.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Voilà, ici, il n'y a pas de pub, mais il y a des jingles. Et puis, c'est pas plus mal. Ça évitera d'avoir à alimenter le système qui s'alimente déjà très bien tout seul. Donc, Benjamin, on va continuer. C'est extrêmement intéressant. J'aimerais en venir à la question de notre émission. Est-ce qu'on entend souvent ce discours qui est patent dans la bouche des néolibéraux, et notamment Dominique Seux, qui nous répète et qui nous serine que la dette publique va manger nos enfants et qu'on transmet la dette publique à nos enfants et que c'est une catastrophe et qu'il faut réduire cette dette. Donc je propose quand même que... Donc ton livre, ça me paraît un bel antidote à ça, parce qu'il rappelle déjà qu'on a pu fonctionner autrement autrefois avec le circuit du trésor, enfin tes livres, mais il rappelle aussi que ça a été un choix politique, et c'est un choix politique qui a été qui n'était pas évident et qui a été imposé notamment en ayant recours à des figures comme Paulo Sulitzer. C'est quelque chose que j'ai découvert en te lisant. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous raconter
l'histoire?
Est-ce
que les gens savent encore qui c'est? Je sais pas. C'est la blague qui marche de moins en moins.
Paulo Sulitzer. C'était un auteur de une de ses chansons en disant nous Paulo Sulitzer.
Voilà. Oui. Il était très connu. C'était un peu même Bernard Tapie, c'est un peu vieux, mais c'était un peu une sorte de Trump à la française avant la présidence Trump, c'est-à-dire qu'il écrivait des polars financiers, donc c'était un genre à part, mais c'était la figure de l'entrepreneur à succès. Alors effectivement, un choix politique, c'est très intéressant, c'est dans la continuité de ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on va faire le diagnostic peu à peu, alors qu'on a une inflation qui est contenue globalement à deux chiffres, on va faire le choix de mettre en marché ce système de financement, et donc de rompre avec ce système administré, avec l'idée que la monnaie, c'est mal, pour le dire très vite, le financement par la monnaie, c'est mal, même s'il n'y a pas de... Voilà, ce circuit, ce n'est pas un financement par la banque centrale directement, c'est un peu plus complexe, c'est via le système bancaire, mais c'est administré. Mais c'est mal parce que ça produit trop de monnaie et que c'est ça qui est responsable de l'inflation. Et à l'idée...
Donc derrière, on a la fameuse théorie quantitative de la monnaie. Qui nous dit que la seule source de l'inflation, la principale cause de l'inflation, c'est l'émission de monétaire excessive. Absolument. Et alors, quand est-ce qu'elle revient? Elle a été développée, c'est une vieille théorie, hein. La théorie quantitative de la monnaie, Jean Bodin en parlait déjà, Galilée, c'est vieux comme le monde. Elle a été développée de manière un peu sérieuse avant la Première Guerre mondiale par Fischer, puis elle disparaît complètement avec la crise de 1929, les Trente Glorieuses. Quand est-ce que cette théorie qui nous dit que c'est à cause de la méchante banque centrale qu'on a de l'inflation revient dans le débat?
Alors, c'est la petite nuance, et c'est une question à laquelle j'ai souvent été amené à répondre, c'est-à-dire que moi, les gens que j'étudie, ma population, comme un anthropologue, c'est des gens qui vont très très peu se référer à la théorie en réalité. Mais si tu veux, ils le sont naturellement en fait, ils sont quantitativistes comme une façon d'être dans le monde, c'est un cela va de soi. Alors il y a quand même des disputes, c'est-à-dire que pour pas réifier un peu le grand tout méchant de Bercy, enfin à l'époque c'est pas Bercy mais c'est la rue de Rivoli, on a des divisions, et typiquement dans les années 70, on a nos chers économistes de la régulation qui occupent des positions à la direction de la prévision, qui occupent des positions dans d'autres parties de l'État.
Alors les économistes de la régulation, ouais, sont des gens entre Marx et Keynes qui ont essayé de développer une synthèse française. C'est la seule école française qui se soit exportée. Donc on en a quelques-uns,
voilà,
chez les atterrés.
Oui. Merci de faire les définitions, effectivement.
On parle à des gens qui ne sont pas forcément spécialisés.
Bref, on a des islamo-gauchistes. Non, je plaisante. Voilà. On a donc une opposition au sein de l'État avec... la bataille va porter sur mais qui est responsable du grand mal de l'époque, c'est pas la dette, mais c'est l'inflation. Et oui, donc on se bagarre pour avoir établir ce diagnostic des coupables et donc des solutions, des remèdes. Mmh. Et donc on a une partie des services de l'État qui nous dit mais non, c'est pas les instruments de financement qui sont responsables en tant que tels de l'inflation, mais c'est, il faut regarder si l'économie est en surchauffe, il faut regarder aussi...
Donc la surchauffe, c'est une situation en fait où on peut pas produire plus, donc les prix augmentent.
Exactement, voilà. Et puis on regarde aussi, est-ce que ce serait pas, c'est pas l'instrument, la manière dont on finance les écarts de revenus annuels, donc les déficits publics, c'est-à-dire la différence entre les impôts et les dépenses de l'année, mais c'est le simple fait d'avoir du déficit. Par exemple, ça, c'est une critique qu'on pourrait retrouver aujourd'hui.
Oui, mais le déficit, ça commence finalement quand on commence à promouvoir ce type d'instrument. En fait, le déficit public français, arrête-moi si j'ai tort, mais ça commence dans les années 70, notamment après 73.
Oui, c'est ces années-là qui sont cruciales. Alors, avant, dans les années 60, on a du déficit, mais il n'est pas structurel. À partir de 74, il devient permanent. Et il y a l'idée que la manière dont on le finance, ce déficit, ça ne va pas parce qu'on fait trop appel à la monnaie. Et donc, il y a l'idée qu'il faut de la dette. Alors ça, c'est quand même un premier paradoxe, c'est qu'on va avoir de cesse dans ces bureaux-là de dire « mais ça ne va pas de financer par la monnaie, il faut avoir un recours à de l'épargne longue, qui est considéré comme un financement plus sain que le fait de se financer à très court terme via un système bancaire qu'on tient par la main et qu'on administre très fortement. » Et donc, on va reconstruire progressivement un marché de l'épargne. Et donc ça, c'est un véritable projet politique, avec aussi l'idée qu'il faut aller conquérir l'épargne mondiale, pas seulement l'épargne française.
Après le tournant de la rigueur, sous les socialistes.
Voilà, Surtout
à partir de 1985, la mise en place du MATIF.
Le projet, tu l'as un peu chez Giscard quand il est ministre de l'économie et des finances.
Et chez Raymond Barre aussi.
Et effectivement, ça explose vraiment avec les socialistes très très tôt.
Notamment M. Bérégovoy, dont tout souligne le rôle absolument incroyable dans ces trucs-là. Même François Mitterrand n'arrivait pas à croire que c'est Bérégovoy qui avait écrit les notes.
Oui, il dit qu'il ne le reconnaît pas.
Effectivement, à le lire, on a l'impression de lire plutôt Milton Friedman.
J'avais un projet de faire un livre que sur Bérégovoy, parce que c'est fascinant. Avec l'idée, le suicide de la gauche, tu vois.
Il y a d'autres manières plus agréables de suicider.
Effectivement, parce que c'est il est fait par c'est quelqu'un qui est pas diplômé, qui apprend les codes progressivement, et il y a une des thèses, mais qu'il faudrait voir dans les faits vraiment s'il est qu'il a été piloté entièrement par son administration, quoi. Et donc typiquement cette administration dont je parle depuis tout à l'heure, le Trésor, c'est en gros l'administration la plus puissante.
Oui, mais au Trésor, il y avait quand même des tensions, tu le montres toi-même. Il a quand même choisi les thèses les plus réactionnaires au sein de.
Disons qu'il y a un alignement qui se fait quand même dans ces années-là, et tu vois, ça participe un peu de ces années 2000 aussi, avec lesquelles on a commencé le consensus néolibéral. En gros, il est quand même très très inscrit au Trésor, et on va avoir des nuances de néolibéralisme, on va dire. Mais donc, effectivement, Bérégovoy considère que
50 nuances de néolibéralisme, voilà, c'est comme ça. Dans le livre.
Exactement. Voilà. Que il faut en gros éduquer les Français à la finance, que le fait de tout déréglementer, ça va faire baisser le coût du crédit, ça veut dire qu'on aura du crédit pour tous. On a déjà un peu ce projet, c'est presque les subprimes, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'il faut augmenter les salaires, mais on va faciliter la vie des Français en leur rendant le crédit accessible, le crédit pas cher. Et donc pour ça, y a un ennemi, c'est l'inflation.
Ils sont rigolos, parce que justement l'inflation des années 60 et des années 70 a permis d'avoir des taux d'intérêt négatifs, donc a permis la constitution d'une classe moyenne qui a pu accéder à la propriété.
Absolument,
ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui.
Mais là, il y a l'idée que c'est la classe moyenne, c'est des petits investisseurs, et que ils doivent se penser comme des petits investisseurs qui ont du rendement sur leur placement, du rendement sur leur épargne. Et donc l'inflation, elle fait pas trop de rendement. Mais certes, t'as raison, elle allège le fardeau de la dette, bien sûr, mais elle est pas rentable pour les investisseurs. Et ça, on l'avait aussi dès les années 60. Et donc, c'est un projet mondial. Et donc, on a nos fonctionnaires socialistes qui vont aller exporter de la dette au Japon, partout, qui sillonnent le monde, et qui recourent à Paul Loup sous l'Isère, qui va faire la pub à la télévision. Donc, il faut imaginer aujourd'hui. La télé de l'époque, c'est quand même France 3, un samedi matin. Et donc, on avait une pub pour la dette française avec Paul Loup sous l'Isère qui dit que...
Là où il y a tous les vieux qui regardent. En fait.
Exactement. Et donc, c'est la France se jette à l'eau, se jette dans les marchés financiers pour vous, la France, pour la rendre moderne, pour la rendre plus compétitive. Et donc, on va vendre cette dette. Et en même temps qu'on vend la dette, ça m'a passionné en tant que politiste, on vend aussi des choix politiques en réalité. Et donc, en sillonnant le monde, on ne vend pas juste la camelote technique du taux d'intérêt.
Parce qu'on est dans les années 80, on est dans les années Thatcher, il n'y a pas d'alternative.
Absolument. On va aussi vendre, par exemple, le fait que il y a un haut taux de chômage en France. Alors voilà, pour un citoyen, c'est là où je dis que c'est un peu déconnecté de la démocratie. Comment on peut vendre le fait qu'en France, on a un haut taux de chômage. Eh bien, on vend le fait que, du coup, les salariés sont en compétition entre eux pour accepter n'importe quel travail, qu'il y a un rapport de force plutôt favorable aux employeurs et pas trop aux employés, et donc que c'est très intéressant d'investir en France. Et évidemment, on vend aussi le fait qu'il y a des politiques budgétaires très serrées, un équilibre budgétaire, que la gauche, c'est plus une vraie gauche. Ça, c'est aussi, on le vend en disant, voilà, je vous rappelle que c'est la gauche de M. Bérégovoy qui a tout déréglementé. Donc, vous inquiétez pas, quel que soit le vainqueur des prochaines élections présidentielles, il n'y aura aucun souci pour les marchés de dette et les marchés obligataires. Donc ça m'a fasciné, c'est-à-dire de montrer à quel point le politique, dans son projet, il va aussi construire une sphère d'activité complètement déconnecté
mais
de la politique.
Il n'y a pas déjà la conscience que les marchés ont des demandes contradictoires sur la dette. D'un côté, ils veulent plus de croissance. Et donc, qui dit plus de croissance dit davantage dépenses publiques. Et puis, d'un autre côté, les marchés, quand la dette augmente, ils s'inquiètent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté,
ça, tu le vois parce que
schizophrène chez les marchés.
Si, et y compris chez, on pourrait dire presque chez les hauts fonctionnaires que j'étudie du Trésor. Par exemple, je l'ai vu, je le vois pas tellement dans ces années, mais je le vois au moment où la dette va venir le problème public majeur, la chose qui va manger nos enfants, comme tu dis. Et ça arrive plutôt à partir des années 2000, 2005, 2010. Et là, effectivement, on va voir les hauts fonctionnaires du Trésor qui disent, mais arrêtez avec ce mélodrame sur la dette publique. Nous, la dette publique, on en a besoin. Il y a des gens qui sont en demande, des investisseurs du monde entier qui veulent placer leur richesse dans ce titre. Il ne faut pas qu'on les effraie trop avec ce grand problème public. Donc, on a une forme de contradiction, comme tu le dis, avec effectivement ce besoin de se placer dans des titres sûrs. Et les dettes souveraines sont considérées comme le support de placement de richesse et d'épargne les plus sûrs.
Oui, et d'ailleurs, pour évaluer la valeur d'un titre financier, on a besoin de ce qu'on appelle un actif sûr, c'est-à-dire de dettes publiques. En fait.
Exactement. Et donc, il y a cette tension qui va travailler, y compris les hauts fonctionnaires que j'étudie, ces contradictions.
D'accord. Bon, donc, il est presque l'heure. Donc, je propose qu'on fasse une pause musicale, si c'est possible. On va faire une brève pause musicale et puis ensuite, on écoutera au téléphone notre tata flingueuse.
Charline et Frédéric Fromet, Michel Barnier s'est donné pour mission d'alléger le fardeau de la dette.
Ouais. Michel Barnier featuring Eddy de Préto.
C'est là. Dette de trop.
La dérive budgétaire qui nous mène au fiasco. C'est la dette de trop.
Le déficit public qui nous réduit au chaos.
Oh là, non, attends Fred, là ça c'est déprimant. T'as pas un truc plus entraînant, t'sais.
Entraînant sur la dette.
Bah oui, un truc sur le déficit public, mais un déficit festif, tu vois.
Tout a augmenté ce matin.
Je n'y comprends rien.
C'est la dette, la dette. Les jeunes, les pépés, les mémés
vont encore trinquer.
C'est la dette, la dette. Ma facture de courant a triplé.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est la dette, la dette. C'est comme un coup d'austérité depuis sa nomination.
C'est Michel Barnier, quel champion. Ah, quel génie.
Les médecins, les profs retraités, retournez bosser.
Celle qu'il faut soigner.
C'est la dette, la dette.
Stop, parce que ça aussi, ça me déprime, ça. Parce que s'il remet les retraités au travail, c'est une réforme qui n'était pas prévue, ça.
Tu vois. Ok, je vais te remonter le moral. Bercy, McKinsey, les ministres ont pour seul mérite de creuser le déficit. C'est la dette, la dette.
Ah, ça, je vois que tu préfères. Ah, ouais, ça va nettement mieux, là. Allez.
On a tout claqué, tout cramé.
La France est fauchée.
C'est la dette, la dette. La solution toute trouvée
pour boucler le budget.
C'est la quête, la quête. Ou pomper comme le FN.
Les caisses européennes.
C'est le racket, racket. C'est comme un énorme découvert.
On vit à crédit.
Crise budgétaire.
Merci qui? Merci Bruno Le Maire.
Si je gérais mes quelques sous
comme d'autres gèrent l'État,
je finirais au trou. Au baumette, baumette. réformateur.
Attends, j'ai une question, Fred. Et il devient quoi dans tout ça, alors, le PIB ?
Je ne veux pas t'abandonner, mon PIB. Je veux pas plomber ta croissance, tu sais. C'est pas que je veux alourdir les charges sociales, ton avenir.
Tu sais.
3 200 milliards d'euros.
C'est pas le loto.
C'est la dette. La dette. Quand il n'y aura plus rien à bouffer,
on pourra se contenter
de la diète.
Mais elle est magique, Charline, avec cette voix, on ne savait pas, dis donc. À la claque, la claque à SDM. Bravo.
Je vais aller chercher, d'ailleurs, dans le couloir, je vais chercher.
Bravo.
Merci, Charline, et merci, Frédéric.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, c'était nos confrères de France Inter. C'était un bel hommage à Bruno Le Maire, qui est devenu professeur de dette à Lausanne maintenant et qu'on salue. Donc, c'est l'heure d'écouter notre doyenne de la Grenoble School of Management. Virginie, es-tu parmi nous ?
Oui, je suis là.
Voilà. Donc, si tu as... Donc, tu venais nous dire déjà quels sont tes conseils à Kim Jong-un pour être élu avec un score absolument fantastique à la tête de Grenoble School of Management. Et puis surtout, tu voulais nous dire tout le bien que tu penses de la politique commerciale de Donald Trump.
Oui, bon, je vais laisser l'école de management là où elle est, puisque maintenant elle est une grande doyenne à la tête de sa faculté.
Oui, Virginie est grande et l'école de management la réverse.
Et effectivement, je voulais vous parler un petit peu de la politique de Trump. Alors, c'est le choc de la semaine, hein, et je pense du mois, voire de l'année. On voit que rien n'est jamais totalement définitif avec Trump, et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein, puisque les choses vont très très vite avec lui.
Oui, c'est un peu surtout, comme le facho de Schrödinger, en fait. On ne sait jamais dans quelle position il va être. En effet.
Voilà, c'est ça. Dedans, dehors, vivant, mort, enfin voilà. Mais surtout, là, ce choc énorme auquel on a assisté, cette journée de la libération, hein, du 2 avril, en tout cas pour lui, avec sa espèce de plaque de boucher, là où il y avait les tarifs, c'était très, très, très étonnant comme présentation, mais peu importe. En dehors du style qui est trumpien, et on pourrait en parler de l'outrance et de tout ce qui va avec, quand même sur le fond, on peut se dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va, quoi. Alors, il n'y a pas grand-chose qui va, ni pour les États-Unis, ni pour l'Europe, ni pour quoi que ce soit. Alors c'est sur ça que je voulais intervenir, hein. C'est-à-dire que OK, on nous annonce la fin de la mondialisation, on voit ça dans tous les journaux, La Croix, BFM nous parle de la fin de la mondialisation heureuse avec des droits de douane. Alors pour l'Europe, plus 20%, la Chine, 34%, le Vietnam, 46%, les pauvres, bon voilà. Mais ceci dit, si on creuse un petit peu sur cette angoisse que fait naître ces droits de douane, on peut déjà se poser la question pour les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que j'ai beaucoup de peine pour les Américains, pour ce quand même ce grand pays. Et malgré tout, la surprise, elle ne devrait pas être si grande que ça, parce que cette politique de recul face au commerce international et de début de protectionnisme, parce que je évidemment que c'est ça, hein, qu'on a tous en tête, ça avait déjà commencé, hein, depuis un moment. Faut pas oublier que les États-Unis, certes, exportent beaucoup d'hydrocarbures, de la chimie, mais ça fait un moment qu'ils se posent la question de la relocalisation, la question de l'échange, où ils sont pas si, euh,
Oui, des questions totalement légitimes au demeurant. Hein. Ça fait partie de leur histoire. Abraham Lincoln s'est fâché avec le Sud à l'époque à cause de la question des droits de douane qui est à l'origine de la guerre civile. Donc c'est une vieille tradition américaine, donc c'est pas nouveau. Hein.
C'est complètement une vieille tradition américaine. Tout le 19e siècle, pendant tout le 19e siècle, les États-Unis ont été très, très largement protectionnistes. Hein. C'est même comme ça qu'ils se sont construits, parce qu'ils ont protégé leur industrie qui était naissante. Donc là-dessus, il n'y a pas tellement de surprise à avoir finalement, parce que les États-Unis sont dans une position délicate. Alors, leur déficit actuellement commercial, hein, faut quand même le rappeler, c'est 1203 milliards de dollars en 2024. C'est abyssal, c'est énorme. Donc effectivement, on pourrait considérer que c'est légitime. Alors, encore une fois, il y a le style hein, qui choque et c'est là où c'est compliqué parce que est-ce que en faisant les choses aussi rapidement, ils vont réussir derrière ? Est-ce qu'il y a un accompagnement en termes de réindustrialisation, de relocalisation ? Ça, c'est pas du jour au lendemain ces choses-là. Hein. Surtout que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande où, quand, comment. Voilà. Bon, à la limite. Ça, c'est la question pour les États-Unis et faut raison garder quant à la soudaineté de ce positionnement qu'on a vu venir depuis un bon moment, déjà sous Obama, hein, déjà ça pouvait. Alors, je vais en venir quand même un petit peu à l'Europe, hein, où rien ne va non plus. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est la première chose, c'est que les Européens tombent de leur chaise, ce qui est quand même étonnant parce que certes les Européens ils commercent depuis un bon moment, ils savent de quoi il s'agit et là on joue un petit peu on crie mon Dieu mais que nous arrive-t-il? Alors c'est vrai aussi que les Européens se prennent en pleine figure des décennies d'adhésion à au postulat d'optimalité du libre-échange. Alors, l'optimalité du libre-échange, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que depuis des décennies, l'Europe a complètement adhéré à l'idée que grâce au commerce international et grâce surtout à un commerce international libéralisé, bah, tout allait mieux. Tout allait mieux. On nous annonçait aussi que grâce au libre-échange, il n'y aurait plus de guerre, que tout le monde allait s'enrichir, etc. Alors ça, c'était le principe, parce que dans la vraie vie, ça ne se passait pas comme ça. On voyait bien cette adhésion sans nuance au libre-échange, et bien, elle avait des contreparties. Il y avait des pays qui ne jouaient pas nécessairement le jeu. Il y avait des inégalités. Mais on nous disait qu'il n'y avait point de salut en dehors de ce libre-échange qui a été institué, institutionnalisé depuis les années 40. Je parle du GATT, hein, 47, l'OMC, etc. Donc, les Européens ont fait semblant de ne pas voir que depuis les années 2010, il y a un mouvement de régionalisation du commerce international, c'est-à-dire qu'il y a des régions du monde qui ont commencé à se replier sur elles-mêmes, mais à commercer davantage, à intensifier. L'OMC avait comptabilisé encore récemment que les accords commerciaux régionaux, il y a 2 ans en arrière, il y en avait 305 au niveau mondial. C'est-à-dire que le libre-échange fluide ne marchait pas. Et depuis au moins 10-15 ans, on savait qu'il y avait ce mouvement-là.
Virginie, ensuite, il ne nous reste que quelques secondes. Donc, qu'on fait face à la folie de Trump ? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas une politique commerciale raisonnable.
Eh bien, c'est pas raisonnable. Donc, c'est là où je voulais arriver. C'est-à-dire que l'Europe doit sortir de ce mythe du libre-échange et aller vers une régulation du commerce international. Sans tomber dans les excès du protectionnisme qui a aveuglé de Trump, il y a une voie qui est médiane, c'est-à-dire un protectionnisme ou en tout cas un commerce international régulé qui va appuyer la transition et qui va aussi réfléchir à ce qui est socialement juste pour notre économie.
Très bien, ben on te remercie Virginie d'avoir synthétisé toutes ces idées en quelques secondes. On va faire une brève pause musicale et on reprend avec notre invité dans 3 minutes.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui s'en souvient, rimeur, rêveur. Un sonnéa, c'est le qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortons d'on ne sait pas où. Toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Eh bien, c'était donc la canaille de...
Marc Augeret.
Marc Augeret, pardon.
Chanter les chants de la commune.
D'accord. On est donc en plateau avec une autre canaille, Benjamin Lemoine, qui a choisi ce morceau. On va peut-être faire une brève pause pour envoyer le jingle, si c'est possible, et on passera à l'interro surprise.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc, Benjamin Lemoine, on est là pour partir la dette haute, si on peut, si je puis me permettre. C'est une expression qu'on a beaucoup. C'est l'heure de l'interro-surprise. Et dans l'interro-surprise, j'ai vu récemment que tu t'étais pris d'une passion pour les oiseaux en général, et notamment pour les vautours. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette passion soudaine?
Ce sont des oiseaux particulièrement attachants, au-delà du sens.
D'accord, tu as des vautours de compagnie.
Absolument.
Alors, personnellement, je préfère les chats.
J'ai des costumes que je revais régulièrement. Non, effectivement, on va filer la métaphore de l'oiseau, c'est les nettoyeurs du capitalisme.
C'est-à-dire oui, que, tu as écrit un livre à ce propos.
Dans voilà. Le cas de la dette publique, c'est à partir du moment où il y a un État qui ne paye plus ses dettes, eh bien... celui qui détenait, qui avait prêté à l'État, qui avait la créance initiale, il s'en est débarrassé parce qu'il s'est dit « mais j'ai aucune chance de me faire rembourser et puis j'ai pas les moyens de pousser la démarche en termes judiciaires, par exemple ». Et donc là, il y a des acteurs qui vont se présenter et qui, eux, au contraire, ont les ressources, ont les moyens juridiques et qui vont racheter cette dette au moment où elle est vendue au rabais. C'est-à-dire que la dette valait 100, elle est vendue 50, mais il y a toujours marqué 100 dessus. Et donc le vautour qui rachète la dette, eh bien, il va faire valoir valoir 100 devant les tribunaux.
Alors qu'il l'a racheté avec, 50.
Exactement, avec les intérêts de retard, etc. Et alors, la métaphore de l'oiseau, évidemment, du vautour, elle est un peu utilisée par les critiques de ce système-là, notamment Christina Kirchner, qui traitait les fonds, les hedge funds de l'Argentine.
De l'Argentine,
et qui les traitait de terroristes de la finance internationale. Mais elle est aussi
Ben Laden de la finance.
La surprise, c'est qu'elle est aussi assumée par les insiders de ce système qui considèrent qu'effectivement, ces fonds, ils ont une fonction vertueuse. Il y a une vertu du rapace qui est qu'ils vont défendre les contrats jusqu'au bout. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un rôle de discipline pour les États en les dissuadant de faire défaut sur leur dette, en les dissuadant de vouloir la renégocier, c'est-à-dire en gros, ils voulaient rembourser dans 5 ans, bah, on va essayer de renégocier, de la rembourser dans 10 ans, en disant non, vous ne pouvez pas faire ça, car dans le contrat initial, les termes sont très précis et nous sommes les défendeurs des contrats en dernier ressort. Et derrière, il y a toute une histoire en réalité.
Il y a toute l'idéologie néolibérale.
Absolument.
Aussi, néoclassique, avec les contrats au centre du capitalisme.
Il y a une forme même de protectionniste aussi, mais c'est protéger ses investisseurs. Et d'ailleurs, ce droit, cette capacité à traduire en justice, elle émerge aux États-Unis dans les années 60, face à quoi ? Bah, face à Cuba, notamment, qui est le cas majeur.
Le diable.
Voilà. Mais qui n'avait pas encore basculé complètement à l'Est et qui nationalise les compagnies de sucre, enfin les grandes compagnies nationales, qui reprend la main sur ses bijoux nationaux, et ça se traduit par des investisseurs américains expropriés, et donc ils vont demander des droits, et notamment bah, ça va être la capacité de traduire en justice des États étrangers, et ça c'est une grande réforme, c'est toute une histoire interne du capitalisme américain dans ces années 60, comment il se défend défend ses investisseurs à l'étranger.
D'accord, et donc tu peux nous rappeler le titre de l'ouvrage ?
Oui, absolument, ça s'appelle Chasseurs d'État.
Hein, Chasseurs d'État, voilà, c'est comme les chasseurs de prix.
Oui, absolument, voilà. C'est-à-dire qu'à la fois on choisit d'investir dans des dettes en détresse, il y a tout un business, un marché de ces faillites souveraines, et puis à la fin, on va pourchasser l'État pour le forcer à payer la dette qu'il doit, et notamment de se conformer à la décision d'un juge que parfois cet État ne souhaite pas reconnaître, puisque c'est une justice étrangère, extraterritoriale, et notamment le droit de New York, qui est en gros la juridiction de Wall Street et du capital financier mondial.
D'accord. Très bien. Bah, il nous reste peu de temps. Il nous reste un peu moins de 7 minutes. Donc je voulais te demander, parce que même si on a essayé de faire les choses avec le sourire, tout ce constat est assez déprimant. Alors qu'est-ce que tu peux... Chez Les Atterrés, on a fondé Les Atterrés parce qu'on pense qu'il y a des alternatives à la situation. Il y a d'ailleurs un livre sur la dette que mes collègues Jonathan Marie et autres ont mis beaucoup de temps à écrire, donc je vous conseille la lecture. Ça n'a pas été simple chez Les Atterrés de l'époque d'écrire un truc sur la dette parce qu'il y avait beaucoup de points de vue. Donc d'après toi, quelles sont les alternatives possible à cette situation où, au fond, la dette, on en a besoin parce que, et d'ailleurs, la dette publique, la contrepartie exacte de la dette publique, c'est l'enrichissement privé. Et ça, c'est comptable. Qu'est-ce que tu proposes, toi, comme alternative pour sortir de cette situation où on utilise la dette pour faire peur aux gens et pour imposer des politiques d'austérité assez dures, hein, comme la politique d'austérité actuelle en France, qui est quand même assez violente dans certains secteurs, et notamment la recherche et l'enseignement.
Alors, je vais répondre en deux temps. Premier temps, on peut répondre par une pédagogie alternative, une pédagogie atterrée, on pourrait dire. Là où on nous présente toujours la dette avec le compteur, des chiffres complètement abstraits, il faut ramener ça à un rapport de force entre un prêteur et un débiteur. Et en réalité, il y a des gens qui s'enrichissent avec la dette, puisque, on l'a dit, c'est un support de placement de richesse, un support de placement de l'épargne. Et donc.
Et même à certains moments, il y en avait, après la crise des subprimes, il n'y en avait pas assez. Les investisseurs se plaignaient.
Absolument.
Qu'ils n'arrivaient pas à trouver à cette dette publique.
Ouais, donc, rappelons-le. Pour revenir dans les années 90-2000, on a très peu d'inflation. Hein, c'est l'âge d'or, un des âges d'or du néolibéralisme. Les banques centrales sont indépendantes, pas touches. Il n'y a même pas de capacité à se faire prêteuse en dernier ressort. C'est même pas encore inscrit dans le paysage. Et à l'époque, les taux d'intérêt sont très élevés, les taux d'intérêt réels. Hein, et donc, on s'enrichit vraiment à travers la dette. Et en plus, ça va de pair avec la baisse des impôts, ce qu'on appelle aussi la politique des caisses vides. Et donc, y a une classe sociale qui gagne au tirage et au grattage. C'est-à-dire que...
Oui, elle achète la dette.
On lui baisse ses impôts et elle a plus d'argent et elle doit la placer, elle achète de la dette. Voilà. Et en plus, via la dette, si on est un peu dans une logique marxiste, prêter à l'État, c'est un peu avoir du pouvoir sur l'État. Marx, il décrivait les créanciers de l'État qui se comportent comme des actionnaires dans une entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont leur mot à dire sur les politiques publiques. Donc déjà, pédagogie alternative, c'est dire, voilà, il y a un rapport de force entre des riches prêteurs et une puissance publique de plus en plus appauvrie qui est obligée d'emprunter et dès lors d'accepter les vœux et désirs de ce prêteur. Donc ça, c'est important de bien avoir ça en tête. Ça fait voir différemment le projet. Et puis la deuxième, les solutions, en fait, je suis pas si désenchanté que ça. C'est-à-dire que entre-temps, je l'ai un
donc
peu...
Donc tu n'es pas Mylène Farmer.
Non, j'ai un peu fait allusion, mais au fil des crises créées par le capitalisme financier lui-même, la crise des subprimes, eh bien, il y a un monstre qui s'est réveillé, un acteur très puissant qui a émergé, et c'est la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que là où, au début, on avait des tabous absolus, donc on avait l'indépendance, et puis il y avait surtout pas touche au marché financier, incapacité de la Banque Centrale Européenne à aller racheter les créances en stress sur les marchés, c'est-à-dire les actifs financiers.
D'ailleurs, il y a des articles qui interdisent, je crois que c'est l'article 103 du traité
de Maastricht,
qui interdit à la Banque Centrale de racheter de la dette au moment où elle est émise.
C'est ça, sur le marché primaire. Voilà,
il faut au moment où elle est émise. Par contre, elle peut racheter de la dette en occasion.
Mais même le déblocage...
Ce qu'elle a fait avec Draghi en 2012.
Mais donc ce déblocage, tu vois, il est tardif parce que l'euro, c'est fin des années 90, donc voilà, il faut attendre quand même 12 ans, il faut attendre des sacrées crises, etc. Mais néanmoins...
Encore, ça s'est fait dans la douleur, parce que les Allemands étaient... Le représentant allemand à la Banque Centrale hurlait contre ces politiques.
C'est ça. Et puis, donc, cette politique d'assouplissement quantitatif, donc en gros, on apaise un peu les choses appliquées à la dette souveraine, qu'on voit à son apogée au moment de la crise Covid, il y a toujours l'idée que cet instrument, il est fait non pas pour sauver les peuples de la panade, mais juste pour stabiliser les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que la dette... En fait, c'est le pain quotidien de la finance. Ça a un rôle quasiment monétaire au sein des marchés financiers. Et donc, la Banque Centrale Européenne, elle a un rôle de gardien de cet actif. Mais là, j'en viens un peu à l'espoir et aux solutions. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'à partir d'un moment où la BCE sort ce bazooka, eh ben, ça calme tout le monde. Elle a une capacité, en réalité, à sortir la dette des marchés de capitaux. Alors, ce n'est pas le circuit du trésor à l'ancienne, mais tant mieux. On a potentiellement un outil d'une force absolument majeure qui est capable d'administrer les taux d'intérêt et donc de faire que tout le monde est relax sur la dette souveraine. Et typiquement, un exemple, au moment de la dissolution et du sort qu'allait être issu des élections législatives, il y a eu un petit stress sur la dette française. En gros, l'écart de taux avec l'Allemagne commençait à augmenter. Et il y avait une réunion des banquiers centraux à Sintra. Et ils discutaient du fait que, bon, en réalité, on a l'outil pour faire que la France ne connaisse pas de stress. Oui. Mais on pense qu'il est important que la France ait un petit peu peur. Et donc,
ne surtout pas avoir un gouvernement de gauche.
Exactement. Et même un gouvernement de droite, on va lui tenir la pression pour qu'il fasse les réformes attendues, d'une certaine façon. Et donc là, on voit bien que les marchés, ce n'est pas un deus ex machina, mais que c'est, je l'ai dit, on l'a dit au début, c'est construit par le politique. Et par ailleurs, on maintient leur force avec des puissances institutionnelles en réalité. Et donc, État et marché se tiennent.
Donc, comment on fait alors pour finir ?
Comment on fait ? On démocratise la Banque Centrale Européenne, on change son mandat, on fait qu'elle peut intervenir sur les marchés de l'occasion, pas uniquement au nom de la stabilisation des marchés financiers, mais au nom d'impératifs très importants que sont le changement radical que nous impliquent des ressources finies dans une crise, enfin, c'est même plus une crise, mais c'est une crise permanente de l'environnement et potentiellement des crises sanitaires à venir. Et donc, on active ce levier au nom d'impératifs politiques et démocratiques.
Donc pour financer la transition écologique.
Absolument, c'est-à-dire qu'on met la Banque Centrale, qui est un outil majeur en dehors des marchés, on le met au service d'un projet démocratique, social et environnemental.
D'accord, tout ça est passionnant, donc je conseille à nos auditeurs d'aller lire tes trois livres et aussi celui des intérêts sur la dette, où on trouve aussi en partie tes analyses. Enfin, c'est
absolument
pas toi qui l'as écrit,
mais
on a des analyses relativement proches.
Très très bon livre.
Puisque tu fais partie de la compagnie des intérêts, voilà, intérêts compagnie. C'était le deuxième numéro, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on remercie Benjamin Lemoine, notre invité.
Merci,
on remercie Radio Aligre d'héberger cette émission sans pub. Et on vous rappelle d'ailleurs que Radio Aligre a besoin de vous, donc n'hésitez pas à donner. Alors je ne sais pas encore quand sera l'émission. l'émission suivante, on va regarder ça, on va essayer de faire ça de manière un peu plus régulière. On remercie aussi Arnaud Gury à la technique qui a assuré. On remercie évidemment Virginie, mon voisin, qui était là en ligne, et on vous donne rendez-vous au plus tard au mois de juin pour le prochain numéro qui sera annoncé sur le site de Radio Aligre. Voilà, bon week-end à toutes et à tous, et surtout ne perdez pas espoir, cette dette et cette austérité ne sont pas des fatalités. Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.